Vous écoutez RTL.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Avec Yves Calvi.
La 34e cérémonie des Victoires de la Musique a donc lieu ce soir. Indiscrétion et tour d'horizon des nominations dans un instant avec Steven Bellery. Nous ferons connaissance avec un des nouveaux talents du cinéma français, le jeune comédien François Civil, aperçu dans 20 ans d'écart ou encore dans la série 10%. Il sera à l'affiche de 4 films cette année et pourrait bien devenir un premier rôle qui compte, ses confidences au micro de Stéphane Boutsock. D'autres confidences à suivre, celle de la romancière québécoise Denise Bombardier. Elle se raconte pour la première fois dans un livre de souvenirs truculents, Bernard Lehu l'a rencontré. Et puis demain soir, retour sur TF1 de l'émission The Voice avec Jennifer, Julien Clerc, Soprano et Mika dans les fauteuils des coachs. On va les entendre en avant-première grâce à Isabelle Morini-Ros.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
C'est l'événement musical du week-end, les 34e victoires de la musique ce soir sur France 2. Steven Bellery, bonjour.
Bonjour à tous.
Vous êtes magnifique en veste.
Incroyable. C'est la première fois.
Il est beau.
Non, mais très gros budget costume.
Je ne sais pas si c'est très beau budget, mais maman m'a bien élevé, sais m'habiller pour les grands événements.
Il porte bien la veste et c'est très agréable. On va parcourir les catégories et les principaux nommés avec vous, Steven. Mais d'abord, à quoi va ressembler cette soirée?
Coup d'envoi à 21h en direct de la scène musicale près de Paris avec cette musique de Jean-Claude Petit. Même salle que l'an dernier, même présentatrice, l'excellente Daphné Burki.
Je suis surexcitée, mais ça, c'est dans mon habitude. Et il y aura des happenings, il y aura des surprises, il y aura aussi des guests. La dernière fois, 2 heures avant la cérémonie, il y a des choses qui n'étaient toujours pas arrivées et pas livrées. Donc je ne sais pas ce qui va se passer. Enfin, et tant mieux.
Est-ce que cette année, vous pourriez aller jusqu'à pousser la chansonnette?
Non, mais à chaque fois, je le fais. Soit je suis ivre. Il y a des vrais artistes. On ne va pas écouter Daphné Burki chanter. Je crois pas. Ne serait-ce que le fait que tout soit en live, qu'il n'y ait pas de playback. Il n'y a plus beaucoup ça en télé. Il y a beaucoup de prêt-à-manger, mais ça, c'est une soirée haute couture, quoi.
23 prestations live sont prévues jusqu'au bout de la nuit. Indiscrets RTL, la cérémonie débutera par un hommage de l'orchestre à Michel Legrand. Une collégiale de chanteuses reprendra un titre de Charles Aznavour. Toujours selon nos informations, Arthur H et Isia interpréteront un morceau de leur père Jacques Higelin, disparu l'an dernier. Et c'est avec un magnéto que les victoires se souviendront de Morane.
Alors on va jouer au pronostic, hein. Il y a 13 catégories cette année. Honneur aux dames pour démarrer, Steve.
Catégorie artistes féminines sont nommées Vanessa Paradis, avec l'album romantique et épuré Les Sources. Elle sera face à Jeanne Haddad, dont je vous parlais mardi ici même, avec l'électropop Radiate. Elle concourt aussi pour l'album rock. C'est donc Christine and the Queens que je vois triompher ce soir. Son deuxième disque, l'audacieux Chris, également cité pour l'album de chansons, devrait lui rapporter la 5e victoire de sa carrière.
Je vais marcher très longtemps, mais je m'en vais trouver les points qui redessinent. Je vais chercher et hontément les coups portés sur moi, la violence facile.
Chez les chanteurs, ça devrait être plus serré, Steven.
Oui, catégorie artiste masculin. On retrouve notre invité d'hier, Eddie De Pretto.
J'ai le cœur en dame, je crois en tout ce qui gagne.
Je pense que le prix lui échappera, mais qu'Eddie devrait gagner celui de l'album de musiques urbaines, catégorie où il sera à nouveau opposé au duo toulousain Big Flo et Oli, deux frères pour une victoire de l'artiste masculin, ce serait bizarre. Ce qui me pousse à donner prime à l'expérience.
Au fond de nous, l'étincelle invisible.
À 63 ans, Étienne Dao est nommé pour la 7e fois de sa carrière dans cette catégorie. Il a échoué 6 fois. La tournée qui a suivi l'exigeant Blitz vaut bien enfin une victoire.
Autre prix important, celui de l'album de chansons, Steven.
Sont en compétition Christine and the Queens. Je l'ai dit, seule femme, elle sera face à Alain Chamfort.
Peut-être ne pas savoir que la terre est ronde, qu'il y a des dieux compris et qu'on vit.
Les Salamandres, extraits du sublime Le désordre des choses, paru en avril. Je crois toutefois que le collège des 600 votants honorera Alain Bachung, nommé pour le disque posthume en amont.
Mortel, mortel. Nous sommes immortel.
Succès public et critique pour un album qu'Alain Bachung n'avait pas validé. Ça me rend donc un peu perplexe, mais ce serait aussi une belle manière de célébrer les 10 ans de sa disparition.
Du côté des jeunes artistes, c'est aussi très varié, à commencer par la victoire de l'album Révélation.
S'affronteront la chanteuse israélienne Roni Alter, dont, pur hasard, le deuxième album sort aujourd'hui. Nommée uniquement sur la foi d'un mini-disque d'un EP de 5 titres, elle n'a à mon sens absolument pas marqué l'année passée, mais ce sera peut-être le cas en 2019. Elle sera face à Foé avec le prometteur mais inégal Il, paru en avril dernier. Je fais le pari de la fraîcheur et du caractère en votant pour la Belge Angèle.
C'est plus que satisfaisant, c'est carrément flatteur et gratifiant. Ça fait un petit temps maintenant que j'ai réalisé qu'en fait il n'y avait pas tellement de différence entre la France et la Belgique en ce qui concerne mon métier en tout cas. Ça arrivait tellement soudainement et cet album, quand il est sorti, ça a été une explosion dans ma vie et c'était déjà en train d'exploser avant, mais là ça a vraiment été un changement. Tout le monde me dit tu verras, tu vas comprendre bientôt, mais pour l'instant je fais que me prendre des bonnes nouvelles dans la gueule, donc à la fin je sais même plus quoi en faire, donc je sais que c'est incroyable mais j'en ai pas encore conscience parce que je l'ai pas encore réalisé.
Angèle en lice aussi pour le clip de Tout oublier, catégorie révélation scène. On retrouve le gentil groupe Thérapie Taxi, teamed up que j'adore mais qui explosera avec son deuxième disque attendu cette année. Je pressens une victoire pour l'énergique Clara Luciani et son opus Sainte Victoire.
C'est hyper émouvant pour moi et encore plus je crois le fait d'être révélation scène parce que j'ai beaucoup donné je crois cette année de ce côté-là. Enfin je veux dire j'ai joué vraiment souvent, j'ai fait beaucoup de concerts. Je me suis en fait révélée si je puis dire, à moi-même par la scène cette année. Si vous m'aviez connue en janvier dernier, vraiment, j'étais hyper mal à l'aise et mal dans mes baskets sur scène, je savais pas où me mettre. Et en fait, de concert en concert, finalement, j'ai vraiment senti que je m'épanouissais.
Votre album était une forme de catharsis après une rupture, mais est-ce que vous imaginiez déjà les chanter sur scène quand vous les écriviez, ces chansons?
Non, pas du tout, et j'imaginais encore moins que ce chagrin d'amour-là me mènerait à être nommée aux Victoires de la musique, parce que si j'avais su, j'aurais demandé de me quitter plus tôt.
Voilà.
On suivra aussi de près Aya Nakamura, nommée à deux reprises ce soir, album de musiques urbaines et chansons originales avec son énorme tube. Dja 305 millions de vues sur YouTube, une écriture totalement barrée qui vaut bien une victoire aussi.
Allez, en bref, d'autres paris, Steven.
Pour moi, l'album rock de l'année, c'est Les Rescapés de Miossec. La victoire de l'album rap ne peut pas échapper à Moa Lasquale, à mon humble avis. Côté musique du monde, je vous avais dit tout le bien que je pense de Fenfo de Fatoumata Diawara, mise en lumière il y a 2 ans avec le projet La Momali de M. En musiques électro, je mise sur le duo parisien The Blaze. Pour le clip, je vote Jane, dont c'est la seule chance ce soir. Et en concert, enfin, je pense qu'Aurel San a toutes ses chances.
Bon, et comme d'habitude, bah, beaucoup d'absents et surtout d'inepties dans cette année.
Si Alain Bachung est nommé, où est Johnny Hallyday, dont l'ultime disque a séduit 1 500 000 Français. Comment Zazie peut-elle avoir été zappée tant Speed a été un tube? Les Victoires ont créé un deuxième prix pour le rap cette année. Ils sont donc 6 nommés. Dans ce cas, où sont Soprano et Maître Gims? Gims qui a signé avec Vianney un méga tube oublié aussi. D'autres artistes snobés, Patrick Bruel, Gaëtan Roussel, Pascal Obispo, Slimane ou Jérémy Frérot. Les 34e Victoires de la musique, c'est ce soir en direct sur France 2 à partir de 21h où la jeunesse dévore tout. 3 nommés seulement ont plus de 50 ans.
Coup de générique de Jean-Claude Petit, ça ne fait jamais de mal. Merci beaucoup Steven Pellery. Bellery, rendez-vous évidemment demain dans RTL Matin Weekend avec Stéphane Carpentier pour découvrir le palmarès et écouter les réactions des gagnants.
Et j'ai un autre petit indice qui vient juste d'arriver. L'hommage à Charles Aznavour, ça sera sur Formi Formidable et ça sera avec Jeanne Haddad, Camélia Jordana et Clara Luciani.
Merci beaucoup pour cette toute dernière info. Steven, dans un instant, on va parler audience télévisée et puis ensuite cinéma.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Yves Calvi jusqu'à 9h30.
À 9h10, ce jingle nous indique les audiences de la veille avec Isabelle Morini-Bosque et Médiamétrie.
Eh bien écoutez, énorme surprise, car si Profilage est logiquement premier avec 5 200 000 téléspectateurs sur la une et 24% du public, c'est inaltérable. Qui est deuxième, je vous le demande? Eh bien c'est une chaîne de la TNT, TMC, qui diffusait Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, 2 900 000 téléspectateurs, ça me semble nucléaire. Et Envoyé spécial, troisième, 2 200 000 personnes étaient devant les trois sujets d'Envoyé spécial.
Ben voilà, on se retrouve dans quelques instants pour nos programmes de ce soir. On va parler cinéma à présent avec le portrait d'un un jeune comédien qui pourrait bien marquer cette année 2019. Bonjour Stéphane Boutsac.
Bonjour tout le monde.
Vous nous présentez ce matin François Civil.
On vous avait déjà croisé à l'écran ce garçon de bientôt 30 ans qui coche plusieurs cases. Excellent acteur, la principale, beau gosse et véritablement sympathique dans le sens gentil garçon, mais positif du terme. Des qualités aperçues dans des films comme 20 ans d'écart ou Five avec son copain Pierre Niney, mais aussi Ce qui nous lie de Cédric Clapiche ou dans la série 10%. Mais cette année, c'est sûr, François Civil va changer de statut, quitter celui d'espoir pour celui de premier rôle qui compte. Il y a peu de comédiens de sa génération qui réunissent autant de qualités. Il est temps que tout le monde s'en rende compte. François Civil est dans ce métier depuis une quinzaine d'années déjà.
J'ai commencé à mettre les pieds sur des plateaux de cinéma grâce à une rencontre que j'ai faite quand j'étais adolescent, donc j'avais 14 ans et j'étais dans un cours de théâtre, mais sans grande prétention ni d'envisager que ça deviendrait un jour mon métier. Mais il se trouve qu'une de mes camarades avait une maman directrice de casting qui est venue voir le spectacle de fin d'année et qui m'a repéré là-dedans et qui m'a proposé de passer des essais ensuite pour des films. Et ça s'est fait comme ça, quoi, de fil en aiguille, doucement. Mais par contre, c'est que de nombreuses années plus tard que j'ai décidé de vraiment prendre le truc au sérieux, quoi. On va dire que j'étais plutôt en dilettante avant. Mais c'est, je dirais, ma rencontre avec Igor Gottesman et Pierre Niney un peu à la même période. 5-6 ans avant qu'on tourne le film Five. Où en fait, en les rencontrant et en voyant que eux mettaient beaucoup de cœur à la tâche et avaient des ambitions plus précises que les miennes, en fait, ça m'a donné un espèce de souffle pour, voilà, m'accrocher à ça et me dire qu'en fait, j'avais envie d'en faire ma vie, quoi.
Alors, à son programme, dans les mois qui viennent, Le Chant du Loup avec Omar Sy, Mathieu Kassovitz et Reda Kateb, très grosse production dans l'univers des sous-mariniers. Celle que vous croyez, thriller sentimental ou psychologique avec Juliette Binoche et Nicole Garcia. Mon inconnu, d'Hugo Gélin, excellente comédie romantique et fantastique pour laquelle François Civil a reçu le prix du meilleur acteur au Festival de l'Alpe d'Huez le mois dernier. Et sans doute, à l'automne, le nouveau Clapiche. Gros programme, donc comment vit-il tout ça ?
À vrai dire, étant donné que j'ai commencé quand j'avais 15 ans et que j'ai traversé des années de vache maigre sans travailler du tout, je me dis que je profite de ce qui se passe là, mais je garde la tête froide et je me dis pas que... Parce qu'on me dit, est-ce que t'as l'impression que c'est parti, machin ? Je me le suis dit à plusieurs fois dans ma carrière plus tôt, donc maintenant je me dis juste que c'est cool et je kiffe le moment présent et voilà, on se prend pas la tête. J'ai essayé de mettre un point d'honneur à faire des choix quand c'était des choix, ou alors en tout cas d'aller passer des essais de trucs très différents, quoi, et d'essayer de me diversifier au maximum. D'abord parce que c'est mon plaisir d'acteur, hein, comme je le disais, j'aime tout genre de film, donc de m'imaginer dedans c'est un challenge en soi. Et aussi parce que justement ce que je ne connais pas ou ce qui me fait peur m'intéresse, et je pense que c'est là qu'on fait les plus belles découvertes. Et du coup d'être dans des genres comme ça diamétralement opposés, du thriller sous-marin à la comédie romantique avec un twist surnaturel, pour moi de voyager entre ces univers, c'est une chance absolue, quoi, et je le cultive.
Acteur, cinéphile accompli, François Civil a aussi évidemment ses références de cinéma.
Il y a des acteurs qui à chaque fois me bouleversent, Philippe Seymour Hoffman, Daniel Day-Lewis, il y a des gens en France, pareil, Juliette Binoche avec qui j'ai eu la chance de tourner, Vincent Cassel, Michael Fassbender avec qui j'ai eu la chance de tourner, donc je suis pas en train de faire du name dropping, mais voilà, quoi, j'ai eu cette chance aussi de côtoyer des monstres du cinéma et du coup d'apprendre et de nouer des liens avec eux et donc du coup d'avoir accès à des petites astuces, quoi.
Eh bien, parlons justement du Chant du Loup, Stéphane, oui. C'est le prochain film RTL et il sort le 20 février.
Oui, thriller d'espionnage comme on en voit peu ou pas en France. L'histoire d'un complot nucléaire au cœur duquel deux équipages de sous-marins français vont se livrer à une traque réciproque haletante. L'équipe du film a pu tourner dans de vrais sous-marins tricolores et François Civil en garde un souvenir très précis.
C'est une catastrophe. Moi, je ne savais pas où me mettre, c'est-à-dire que c'est tellement petit qu'on gêne tout le temps. Et eux se gênent entre eux tout le temps. Par contre, personne n'a le droit de s'irriter. C'est qu'il faut rester toujours dans une bonne ambiance. Enfin, c'est un accord tacite, quoi. Littéralement, moi, on m'a assis pour pouvoir passer ou pour faire passer des choses et tout. Donc c'est un autre rapport, quoi, au corps, aux gens. Et Antonin Baudry, le réalisateur du film, a mis un point d'honneur très tôt à ce qu'on voit une coach de mouvement avec l'équipage pour qu'on crée une espèce de chorégraphie ensemble du mouvement avant de s'approprier le texte même. Donc en fait, j'ai halluciné de voir comment ces hommes s'organisaient comme une micro-société complètement coupée du monde pendant 3 mois, qui voient pas la lumière du jour, et ils n'ont pas le droit de remonter à la surface, quoi. Donc on se dit, d'emblée, ils sont tous dans un espèce de respect des uns des autres, de cohésion, de solidarité. On a eu la chance en préparation de plonger littéralement avec un vrai équipage de sous-marins en exercice, et c'est un truc qu'on observe immédiatement, quoi. Et ça, c'est fascinant. Je pense que ce qui m'a le plus marqué, en fait, c'est les hommes. C'est ces gars-là, quoi, qui sont empreints d'abnégation, d'engagement, d'amour les uns pour les autres.
À l'affiche du Chant du Loup, François Civil, donc, mais aussi Omar Sy, Mathieu Kassovitz et Reda Kateb.
Je pense que des quatre, je suis celui qui appréhendait le plus, hein, étant donné mon jeune âge, quoi. Je suis un peu plus novice que dans ce métier-là, et surtout, moi, j'étais au courant de tout ce qu'ils avaient fait tout au long de leur carrière, et je suis très fan des trois. Et eux, je pense qu'ils n'avaient aucune idée de qui j'étais, donc j'arrive comme l'outsider. Mais quand ça a la chance de bien se passer, et c'était le cas instantanément, il y a un truc qui se démystifie un petit peu, quoi. On devient un pote très vite, et je trouve que sur ce film, il y a un truc particulier qui s'est créé, c'est que on fait un film d'équipage, et très vite, c'est ce qui s'est passé sur le plateau, quoi. Chacun était à sa place dans son rôle et a essayé de porter l'histoire pour faire le meilleur film possible, comme des sous-mariniers en mission qui d'ailleurs enlèvent leur grade, donc il y a plus de hiérarchie, il y a plus d'ego, et donc on est tous au sein de cette aventure.
Le Chant du Loup d'Antonin Baudry sort le 20 février avec RTL. On en reparlera longuement, tout comme de l'excellent François Civil, l'acteur français sans aucun doute de cette année 2019.
Merci beaucoup Stéphane Boutsock. Bernard Lehu, bonjour.
Bon matin.
La romancière.
Ah oui,
il se met à parler québécois. Alors là, je m'attends à tout. Alors, la romancière et journaliste québécoise Denise Bombardier raconte pour la première fois à 78 ans, 78 ans, son parcours personnel et professionnel dans des mémoires intitulées Une vie sans peur et sans regret.
Et un titre qui lui va bien, elle dont on connaît la force de caractère et le franc-parler légendaire, qui lui viennent d'une enfance contrariée dans une famille modeste sous la coupe d'un père autoritaire et glacial qu'elle qualifie de terroriste familial. Très vite, Denise Bombardier s'affranchit des siens pour se forger un destin d'exception. Si sa vie sentimentale est riche, elle raconte tout ici, ses amours les plus grands, les plus constants sont allés à la langue française, à la France et bien sûr au Québec. Et alors ?
Et alors, Denise Bombardier n'a jamais oublié, notamment le 24 juillet 1967.
Voilà, vive le Québec, vous avez rafraîchi la mémoire, Yves. Mais bien sûr, c'est ce jour, le général de Gaulle prononce du balcon de la mairie de Montréal une phrase, cette phrase historique.
C'était incroyable.
Non, oui. Vous avez entendu le discours à la radio, dans
oui,
la voiture.
Et j'ai figé, et là, j'ai été obligée de ranger ma voiture, parce que je me suis dit, je vais faire un accident. C'était un choc. Et puis regardez la symbolique de ça, c'était la France qui nous avait abandonnés, qui revenait vers nous à travers le général de Gaulle et qui disait « Oui mes enfants, je vous ai toujours aimés, je ne vous ai jamais oubliés ». C'était ça aussi. Mais vous savez, aujourd'hui, je parle de ça devant des jeunes Québécois, ils savent pas. De Gaulle, ils pensent que c'est un aéroport à Paris, vous voyez ? Parce qu'eux, ceux qui ont pris l'avion avec un sac à dos, ils savent rien d'autre. La devise du Québec, en plus, c'est « Je me souviens ».
Ben oui.
Et comme disait notre grand poète national, Gaston Miron, c'est notre devise, c'est « Je me souviens » parce qu'on se rappelle de rien.
Un an plus tard, Denise Bombardier réalise son grand rêve, visiter la France, son pays de cœur. Un premier voyage chahuté, nous sommes en mai 68, pas d'avion pour Paris, elle atterrit à Bruxelles et prend la route 50 ans après. Son premier contact avec le sol de France l'émeut toujours.
Ben, je pleurais en la racontant. Mais c'était, ça allait de soi. J'ai traversé la frontière. Puis dès qu'on a traversé, il y avait des postes frontières à l'époque, pour ceux qui ne savent pas. J'ai traversé. Et puis, je suis sortie de la voiture. Je me suis mise à genoux. Puis j'ai baisé le sol de France. Voilà. C'était ça. C'était cet attachement-là. Pardon. Et j'ai découvert, au moment d'écrire mes mémoires, que des deux côtés, je suis, comme on dit au Québec, totalement de souche française.
Et ce qui est incroyable, c'est que cette souche française, elle se trouvait, vous ne le saviez pas encore à l'époque, à quelques kilomètres de cet endroit où vous passez la frontière,
oui,
et où vous baisez le sol français.
Oui, et tout ce qui reste de André Bombardier, qui est l'ancêtre,
c'était du quartier Saint-Sauveur à Lille.
Ouais. Voilà. Il reste une façade de l'église où il a été baptisé. Mais dans mon cœur et dans le cœur de mon fils, parce que j'ai raconté, évidemment, ça se transmet. Puis ma petite fille, je vais lui raconter ça aussi, parce que j'ai une petite fille maintenant. Mon attachement à la France, je pense que même les Français peuvent pas imaginer à quel point on était attaché à la France.
À Paris, jeune journaliste Denise Bombardier fait un stage auprès du directeur de l'ORTF. Elle découvre effarée la mainmise du pouvoir politique sur la télévision.
À 16h ou 16h30, il recevait un coup de fil de l'Élysée et là, il faisait ce qu'il appelait le conducteur.
Oui, donc le plan du journal,
oui, le
sommaire.
Du journal. Et là, il donnait l'ordre dans lequel voici, on ouvre avec telle nouvelle. Et il était obligé de négocier. J'entendais pas l'autre à l'Élysée, mais je comprenais. Il disait, ah bah oui, vous avez raison, oui. Oui, ça parle en deux. Et ça, il changeait le plan. Moi, j'étais hallucinée. Radio-Canada, c'était vraiment... Il y avait un barrage entre le pouvoir des gens de Radio-Canada et le gouvernement, quand même. C'était impensable. C'était comme en Union soviétique, quelque part. Ouais, ici, oui. Je n'en revenais pas.
Alors, au Québec, Denise Bombardier deviendra une animatrice vedette du petit écran, et puis elle rencontrera les plus grands.
De Mitterrand, dont elle avoue n'avoir jamais percé l'épaisseur du mystère, à la romancière Marguerite Yourcenar, première femme élue à l'Académie française, qui l'invite à déjeuner avant son interview. Marguerite Yourcenar, qui ne buvait pas que de l'eau.
Oh non, non. Et moi, j'ai quand même résisté, parce que là, je me retrouvais devant quelqu'un qui buvait beaucoup.
Ouais, du blanc.
Oui.
Si vous avez bien lu.
C'était du Sancerre, si ma mémoire est bonne. Eh bien, moi, qui ai été élevée par des tantes qui buvaient beaucoup, évidemment, je ne suis pas étonnée, mais en même temps, moi, j'ai 4 demi-heures à faire. Il faut remonter à la suite, dans sa suite, pour aller faire les entrevues. Et elle me parle de toutes sortes de choses, et elle s'intéresse beaucoup à moi. Au fond, elle veut savoir qui je suis. Alors que moi, j'ai Marguerite Yourcenar devant moi. Et là, on est monté, on a commencé l'entretien, mais il fallait arrêter à l'époque, on filmait, il fallait arrêter après chaque demi-heure. Mais là, elle se faisait donner des cognacs. Et disons que la dernière demi-heure, où je crois qu'elle parle de Dieu, disons que Dieu est un peu imbibé. On va dire ça comme ça.
Voilà. Je comprends mieux certaines interviews que j'ai vues de Marguerite Yourcenar. Il fallait Denise Bombardier pour qu'on le découvre.
Oui. Les souvenirs truculents de Denise Bombardier à découvrir dans Une vie sans peur et sans regret chez Plomb. On tripe, comme on dit chez nos cousins du Québec.
On a passé un très bon moment. Merci beaucoup Bernard Leluc. Dans un instant, notre week-end télévisé mis en musique par mademoiselle Isabelle Morelli-Bosque.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Avec Yves Calvi.
9h23, alors dites-moi chère Isabelle, ce week-end est marqué par la musique puisque démarre demain aussi sur TF1 The Voice saison 8 avec un jury totalement, enfin beaucoup renouvelé quand même.
Oui, ben oui, quasiment totalement. Retour de Jennifer, arrivée de Soprano et du jeuneau Julien Clerc, exit Obispo, Zazie, Florent Pagny, qui trouvait que 7 ans ça suffit, quitte tout de même à ménager l'avenir. La preuve avec ce passage de relais amusant entre Julien Clerc et lui.
Et quelqu'un ? Florent !
Julien, ça me fait plaisir de savoir que c'est toi qui prends mon fauteuil. Comme dirait l'autre, place aux jeunes. Pour être un bon coach, il faut savoir buzzer. Approche. Installe-toi.
Comme ça.
Ah, voilà. Faut le faire un peu plus fort. Sois plus concentré. Boum ! Respecte le buzzer et le buzzer te respectera. Ah, voilà, ça c'était bien.
Ah, tu vois ?
Non. Alors, 2 choses pour terminer. La première, le plus important, c'est les talents. Et la deuxième, le fauteuil s'appelle revient.
Évidemment, j'aimerais bien buzzer moi aussi, c'est possible. Voilà,
ah,
encore
oui.
Un petit coup. Ah, voilà. Ça fait du bien. Pardonnez-moi.
Mais j'adore ça moi aussi. Florent Pagny laisse un souvenir ému à qui ? À Mika, seul rescapé du précédent jury. Mika.
La première fois qu'on s'est rencontrés, il ne savait pas exactement comment me gérer. Je suis allé vers lui et je l'ai embrassé très fort. Il était un petit peu en choc. Je pense que c'était la première fois que quelqu'un l'a embrassé aussi fort. Je lui ai donné un énorme bisou sur la joue. Bon, sur la joue quand même. Et après ça, il y a eu un rapport qui a totalement changé entre nous. Quand j'avais un problème, j'allais lui parler. Quand j'avais une bonne nouvelle, j'allais lui parler. Quand j'avais rien à dire, il me faisait rire. Cette présence-là me manque. Et Zazie, ce qui me manque avec elle, c'est cette intelligence pointue aussi délicieuse que méchante. On se balançait un mot, ça partait comme un petit ballon de ping-pong. Et cette année, Julien s'engage à fond avec quelqu'un qui avait fait tellement de choses. J'avais peur qu'elle allait être presque froid. C'est totalement l'inverse. Il est chaleureux, généreux, drôle. Il fait le con, mais aussi sage.
Donc à aucun moment vous vous êtes dit, bon, dedans, il est à l'aise pour un bleu.
Non, pas trop. Parce que quand même, il y a des moments où il est très mal à l'aise.
Oui. Ah, c'est ça drôle. Lui fait un petit peu plaisir. Autant dire que Julien Clerc, qui veut trouver sa nouvelle voix en écoutant celle des autres, est le totem de cette saison. Le nouveau sage, il les fascine tous. Mais tiens, qu'est-ce qui lui faisait le plus peur à Julien Clerc ? Devoir juger ou être jugé, parfois dépassé ?
J'avais peur de 2 choses. La première, c'est qu'on ne choisisse pas. Alors ça, c'était mon angoisse. Mais en plus, ça venait d'avoir regardé The Voice et avoir vu pendant plusieurs émissions Florent pêcher personne. Je me disais, mais moi, ça, tous les coups, ça va m'arriver. Et s'ils ne viennent pas vers moi, ceux que je vole, c'est affreux, quoi. C'est humiliant et tout ça. Donc, j'avais peur de ça. Et ça s'est débloqué assez vite. Ce qui m'a fait plaisir, c'est que j'ai peut-être l'équipe la plus jeune. Et l'autre chose dont j'avais peur, c'était la prise de parole. Est-ce que je vais être capable de pas dire des banalités. Surtout que moi, je m'étais dit, je me retournerais sur 1, quelqu'un qui me provoque de l'émotion, et 2, avec une signature vocale particulière. À partir du moment où on se retourne sur quelqu'un qui vous a procuré d'émotion, les mots viennent finalement facilement. C'est une émission où tout le monde a besoin de tout le monde. On le sent quand on arrive là-dedans. Ce sont des gros moyens mis au service d'un bon vouloir.
Il vous dit beaucoup de choses, hein, oui. Et bien, il avoue sa fragilité, en fait.
Oui. Et bien, figurez-vous que Soprano avait peur, lui aussi.
Bah alors.
En fait, moi, j'avais peur parce que les gens, ils ont des a priori beaucoup sur le rap. Même si aujourd'hui, moi, je suis entre le rap et le chant. Mais je me suis dit, les gens, ils vont plus peut-être aller sur des chanteurs comme Mika qui ont de la voix, ou Jennifer, pop, rock, jazz, ou peut-être Julien Clerc avec les mots. La musique urbaine, les gens s'arrêtent à des clichés. Et en fait, compte, déjà de un, il y avait beaucoup de musique urbaine. Et de deux, il y en a certains qui ont chanté des chansons aucun rapport avec mon univers et qui me disent, je choisis Soprano, je l'écoute depuis que je suis petit. Et c'est magnifique parce que du coup, les frontières, petit à petit, n'y sont plus. C'est cool. En fait, moi, je suis le rappeur chanteur du rap. C'est pour ça qu'on m'appelle Soprano, en fait.
Voilà, quant à Jennifer, oui. Qui prouve avec son retour qu'un fauteuil n'est pas toujours un siège éjectable, bah, elle est tout simplement ravie de retrouver ses amis.
Julien, j'ai eu la chance de partager la scène avec lui sur les Restos du Cœur, mais je ne le connaissais pas aussi expansif. Il est brillant, je bois ses paroles, j'adore discuter avec lui, je le trouve passionnant, il est toujours plein d'histoires. C'était très difficile, en fait, de se retrouver à côté de lui, un peu en mode admiration quand même. Mais ouais, mais t'as raison, mais c'est juste ce que tu te dis et tout. Fallait passer après Julien quand même. Alors Mika est époustouflant là cette année, alors là il a tout donné et Sopra, j'adore mes copains.
Dites-moi, j'ai vu qu'il y avait une nouvelle règle, non ?
Oui, qui permet à un coach de bloquer une fois un confrère pour l'empêcher d'acquérir un talent. Et ça, les nouvelles règles, c'est plus le truc de Julien Clerc que de Mika.
Oh là là, il y a tellement de règles. Moi, je comprends rien. Et chaque fois qu'il nous présente une règle, il nous envoie un email. Alors cette année, j'ai reçu un email de 3 pages. Je lis même pas les mails qui arrivent de ma famille. Pourquoi est-ce que je vais lire un mail de 3 pages ? Les mails qui arrivent de mon avocat, eh ben je les lis même pas. Ce qui veut dire que j'arrive sur le plateau, je me trompe immédiatement. J'ai décidé de bloquer quelqu'un. Je le fais très vite. Je pensais que je pouvais bloquer les autres, mais c'est pas vrai. On peut juste bloquer un autre coach pendant toute la saison. Mais il faut jamais trop savoir ce qui se passe. Il faut toujours être un petit peu confus.
Mika n'a pas compris. Il a pensé qu'il pourrait éliminer 3 fois, mais non, on peut éliminer qu'une fois. C'est quelque chose d'intéressant dans la stratégie, parce que quand on commence à avoir les équipes presque pleines, on se fait une idée beaucoup plus précise de ce dont on a besoin dans l'équipe.
Des adieux à jamais. Oui, je suis au regret. Te dire que je m'en vais.
Et dimanche, faut quand même que je dise que j'ai eu un immense coup de cœur sur France 5 pour un doc savoureux sur le Paris des grandes brasseries Lippe, La Coupole, Julien. Franchement, ça fait du bien à l'âme, on s'y restaure à tous les sens du terme. Géniale émission.
Merci Isabelle. Dans un instant, nous accueillons Julien Courbet.